Alors moi, il y a une phrase qui me vient, mais un petit peu de manière récurrente, mais qui me revient maintenant à nouveau. C'est pour décrire la période actuelle. Le monde est une machine à laver en position essorage. Je sens que plus que jamais, on est dans une période de nettoyage. Nettoyage de tous azimuts, hein, entre guillemets. Alors, c'est quoi le nettoyage? C'est une manière de dire, on a assez joué avec la peur, on l'a expérimenté, avec la détresse, avec l'angoisse, avec la frayeur, avec la terreur. On est venu pour ça, on est sorti de l'océan d'amour en pensée pour voir qu'est-ce que ça pourrait être un monde sans amour. Bon, parfaitement réussi. Il y en a quand même, il faut bien chercher. Hein. Et donc, que la période actuelle soit une période de nettoyage, beaucoup plus intense que ce que j'ai jamais connu dans ma vie, ça me paraît absolument évident. Évident. Alors, c'est quoi aussi ce nettoyage? C'est on commence à identifier tout au niveau subtil, c'est peut-être notre âme qui fait ça, tout ce qui encombre, et on le fait remonter à la surface pour le mettre dans le panier de linge sale et pour le laver, c'est-à-dire l'expérimenter en mouvement. Et la machine à laver, elle met en mouvement ces émotions qui auparavant avaient plutôt tendance soit à être refoulées, c'est-à-dire, vous savez, les choses qui sont au fond du panier mais qu'on lave jamais parce qu'il n'y a pas assez de cette couleur-là ou je ne sais pas. Ça dure un mois, deux mois, trois mois, mais c'est toujours au fond du panier. Enfin, moi, ça m'arrive. Ouais, c'est des choses, un jour, je le laverai. Mais bon, ça, en attendant, ça reste au fond du panier. Et là, en ce moment, on a plutôt tendance à aller chercher ce qui est au fond du panier, bien refoulé, ou alors dans la cocotte minute, avec le couvercle vissé à triple tour, pour que la pression monte bien, hein, bien sûr, et en disant, bon, bah ça, assez joué avec. Je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai re-revu, je l'ai archivu, je l'ai expérimenté, j'en ai fait le tour, j'ai été bourreau avec ça, j'ai été victime avec ça, j'ai fait acte 1, tragédie, comédie, théâtre de boulevard, j'ai fait un nombre d'expériences infinies avec ça. Maintenant, je le mets dans la machine à laver, c'est-à-dire je le ramène à la conscience et je le mets en mouvement. En faisant quoi? Eh bien, en le vivant. En le vivant, mais pleinement, pour lui donner une occasion, une opportunité d'être en mouvement, c'est-à-dire de réintégrer le flux du vivant. Et le flux du vivant, c'est le flux de l'amour, puisqu'il n'y a que l'amour qui est l'existence. Donc, ça peut paraître très difficile et en même temps, je trouve ça très réjouissant, hein, cette période de nettoyage. Alors, il y a celui qui observe le nettoyage, celui qui est en train de nettoyer, c'est pas forcément le même agrément de part et d'autre. J'en conviens, je conviens. Et moi-même, il y a quelques mois, j'ai eu des remontées de blessures d'enfance très fortes et j'ai été poussé à nettoyer, mais très vite et sans attendre. Enfin, j'ai attendu que ce soit insupportable, mais ça a pris une semaine. Ça n'a pas pris des années. Ça s'est monté, ça m'a encombré, ça m'a réencombré le jour d'après, ça plombait mes actions de tous les jours, jusqu'au jour où je me suis dit, bah vite, t'as les outils, allonge-toi et respire, vas-y. C'est comme si je me parlais à moi-même. Et puis je me suis allongé, j'ai respiré un jour, deux jours, et au troisième jour, je me suis éclaté de rire avec ça. Donc, voilà, ce que je vois, c'est que l'intention de nettoyer, lorsqu'elle est manifestée maintenant, elle produit des effets très rapides. Mais lorsqu'elle est manifestée, j'ai envie d'aller bien, je veux en terminer avec ça, parce que c'est fini, l'encombrement, je l'ai assez expérimenté, en gros. Hein. Et donc avant, il y avait des thérapies de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 20 ans. Et maintenant, quand je me mets en face et je dis, toi là ma détresse, toi là mon angoisse, viens voir et dis-moi ce que tu as à me dire. Je t'écoute et je te regarde dans le blanc des yeux et je t'accueille complètement à 100%. Si j'ai besoin de plonger dans tes profondeurs, dans ton obscurité, je le fais, parce que c'est comme ça que je peux rendre ça vivant. Et puis ensuite, je vois ce qu'il en devient. Et ce qu'il en devient, pour moi, ça a été un grand éclat de rire. À propos de trucs difficiles, comme l'abandon en tant que bébé, comme le rejet, le sentiment de ne pas compter pour quelqu'un, ou pour sa mère, ou pour son père. Donc, c'est pas rien. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais guidé à créer des groupes de respiration intensive dans lesquels les résistances peuvent être beaucoup, beaucoup plus ténues et le barrage peut être sauté, le barrage de l'ego hein, peut être enjambé beaucoup plus facilement. Et récemment, j'étais guidé à créer un groupe sur la colère. Parce que je vois des manifestations autour de moi et je vois de plus en plus de gens concernés par le sujet. Mon chemin m'amène à ces endroits où je me dis c'est ça qui est là maintenant, c'est la colère qui a travaillé maintenant. Avec certaines personnes que je reçois, et puis tout d'un coup, l'axe change, et puis je vois que ça fait entre guillemets, des petits miracles. Et donc, un lieu dans notre monde où la colère peut être célébrée, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai vécu un groupe qui s'appelait Célébrer sa colère. Et c'était une vraie bénédiction, hein, une vraie bénédiction déjà de se réunir en tant que personne qui autorise la colère comme une énergie vivante et puissante et qui la laisse se manifester. Pourquoi faire la nettoyer, arrêter de retourner l'énergie de vie contre moi pour détruire ou contre l'autre pour détruire, mais la mettre au service du vivant en la célébrant. C'est-à-dire, s'il y a un lion, le lion, il dit ce qu'il a à dire. Quand le lion a poussé son rugissement en disant « c'est moi le roi de la jungle, je suis là », mais avec la puissance du rugissement, il n'y a personne à détruire, il n'y a personne à tuer, il peut aller se recoucher tranquillement. Il a fait sa déclaration d'indépendance. Je suis tout puissant, je suis souverain. C'est un mot qui me parle beaucoup en ce moment. On nous parle beaucoup dans les canalisations de retrouver sa souveraineté sacrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se précipiter sur quelqu'un, soit mon compagnon, soit ma compagne, je t'en prie parce que je ne supporte plus d'être seul. Non, maintenant je suis seul et ça a un sens et c'est ma souveraineté sacrée qui peut s'exprimer pendant un temps. Pendant un temps, je peux m'ériger dans ce qui est souverain en moi, ce qui est en paix. Qui n'a pas besoin absolument de quelqu'un pour tenir compagnie à ça. Ça n'empêche pas les relations, mais il n'y a plus besoin de ça. Et à propos de besoin, il y a une phrase, quand tu parlais, Sylvain, qui m'est revenue, c'est cette phrase de Ken Wapnick, qui est très forte pour moi, et qui disait cette chose courte et magnifique, qui disait « Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est comment vous le faites. » Et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire, parce que je peux continuer à faire exactement la même chose en y mettant un état d'esprit différent et mon ressenti pourrait être radicalement différent. Et j'ai un exemple. J'ai un exemple personnel. Il y a une dizaine d'années, j'avais pratiquement tous les ans au mois de novembre une sorte de dépression, une ornière, un trou où je plongeais au fond de ma piscine dans quelque chose de désagréable, dans quelque chose de lourd, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là ? Dans le mois du spleen et de la tristesse, j'avais rendez-vous avec ça pratiquement tous les ans. Et à un moment donné, je redoutais même l'automne qui arrivait. Ça fait des vagues, ouais. en me disant oh, j'ai pas envie de retrouver ça là, ce truc là. Et je me suis rendu compte que je jugeais, que j'appréhendais ce passage à vide, ce passage dans le creux de la vague. S'il y a un creux de la vague, c'est bien qu'il y a un sommet de la vague. Hein? Sinon, ça serait pas creux, ça serait plat. Ça serait tout le temps en bas, mais c'est jamais tout le temps en bas. Et j'expérimente qu'après avoir été en bas, bah, ça remonte, la vague, je peux à nouveau élever mon énergie. Mais parfois, j'ai besoin d'explorer les tréfonds de mon âme, les tréfonds de ma peur, de mon angoisse, de ma détresse, de mon sentiment d'être nul, de rien valoir aux yeux de personne, de ne servir à rien sur terre, de n'avoir aucune utilité pour personne, et pas de valeur personnelle surtout. Eh bien, j'ai un jour arrêté d'appréhender ce moment-là, et j'ai commencé à l'accueillir, ce moment-là. C'est-à-dire, comment ça va à vie? Et bien là, j'arrêtais de prétendre que ça, je ne répondais pas machinalement « ça va ». Je disais bah, « en ce moment, c'est moyen, moyen ». Déjà, je le reconnaissais, ça a fait beaucoup. Hein. Et puis ensuite, j'ai repris une phrase de ma thérapeute qui disait « bah oui, Avi, tu vas bien mal ». Et ben oui, et alors? Et tout d'un coup, c'était presque anodin. Et j'ai commencé à ne plus la renier, la dépression, à ne plus dire « il ne faudrait pas que je plonge ». Et là, mon expérience a complètement changé. Ouais, bah ouais, j'ai le sentiment d'aller moins bien que d'habitude. Mais bon, bah, c'est comme ça maintenant, c'est comme ça en ce moment. Et bon, il y en a qui disent que le soleil a des effets sur notre humeur et que si on a... Bon, bah, les femmes sont cycliques et puis nous, on a des biorhythmes aussi. Il y a par moments des rayonnements forts qui arrivent et par d'autres moments, c'est plus calme et qu'on a parfois des émotions associées. Voilà, on est dans un bain d'ondes qui change en permanence. Comme on est très influencé par l'électromagnétisme, pourquoi pas? Il y a aussi un effet de corrélation avec tout ça, peut-être pas uniquement. Il semblerait que le soleil ait beaucoup, beaucoup d'influence sur nous, hein, et le taux de suicide est beaucoup plus fort dans les pays où il y a moins de soleil, hein, en Norvège et en Islande, paraît-il. Hein. Enfin, je crois que ça s'explique... Et donc, quand j'ai arrêté de craindre la dépression qui arrive, quand je l'ai acceptée pour ce qu'elle est, eh ben, j'ai vu que j'arrêtais de lui donner de l'énergie. C'est-à-dire que j'arrêtais d'une certaine manière, j'amplifiais le phénomène de « je me sens mal » en jugeant. Parce que déjà, il y a la dépression. Mais en plus, je dis, elle ne devrait pas être. Alors, ça fait deux raisons d'être en conflit dedans. Hein? Mais si je dis, il y a la dépression, bah, bienvenue à ça et bienvenue à ce qui viendra après également. Et donc là, il n'y a plus de lutte. Et une des façons de garder son énergie, c'est d'arrêter de lutter pour des choses où la lutte n'arrange rien, mais au contraire empire les choses parce qu'elle consomme mon énergie de vie. Si déjà je me sens avec pas beaucoup d'énergie de vie, mais en plus je lutte pour changer une chose qui apparemment est hors de mon pouvoir de changer, alors assurément j'aurai encore moins d'énergie de vie. Donc l'accueil, c'est pas un petit mot, hein, l'accueil. L'accueil, c'est je suis ce que je suis et c'est parfait comme ça. Je suis angoissé, ben je suis angoissé. Eh bien oui, mon âme a décidé de faire l'expérience de l'angoisse. Eh bien oui, ou de la détresse. D'accord. Est-ce que je peux dire oui à ça sans dire ça ne devrait pas être? C'est là maintenant. Donc soit je le vis ou tout simplement j'arrête de me battre contre. Je ne suis pas obligé de cautionner l'angoisse ni de cautionner la détresse. Je n'ai pas besoin d'entretenir ça, je n'ai pas besoin de me plaindre tout le temps. Il y a des gens dont le métier, c'est la plainte. Hein. Alors là, c'est comme il y a dans les Maghreb, on embauche des pleureuses pour les enterrements. Parce que, voilà, ça amène, ça fabrique la tristesse. Hein. Au lieu de la ressentir, c'est importé. Donc, il y a de la détresse, ben il y a de la détresse. Mais le fait de dire oui à la détresse, c'est aussi le fait d'inviter autre chose à venir. Parce que quand j'ai honoré, et je peux dire même célébré la tristesse, ça se célèbre, hein. Ma thérapeute me dit, ben, si t'es triste, pleure, mais pleure vraiment. Mets-toi devant un film, loue une cassette, mets-toi devant un film vraiment triste et pleure comme un veau. Et honore-le. Et quand tu l'auras honoré complètement, bah, elle aura dit ce qu'elle a à dire. La tristesse, ou l'angoisse, ou la détresse. Si je suis en détresse, peut-être j'ai besoin d'hurler. Et puis la détresse aura dit ce qu'elle a à dire. Si je suis angoissé, j'ai peut-être besoin de me terrer dans un petit coin, en me recroquevillant sur moi-même, en hurlant. Voilà. Et puis j'ai joué le rôle que mon âme avait envie de jouer dans ce passage-là de ma vie. Dans cet instant. Ou peut-être j'ai besoin de tendre le bras et d'appeler à l'aide. Hein, c'est aussi une façon d'honorer, de prendre responsabilité. Donc, quand je change de vision sur quoi que ce soit que je ressens, ben, je change l'expérience. Hein. Soit je l'accepte, soit je lutte contre. Et lutter contre, c'est simplement exprimer que j'ai peur de ça. C'est parce que j'ai peur de ça que je voudrais que ça parte. Mais si j'accueille comme je l'embrasse, ma détresse, comme une amie qui vient me dire un message qui est très spécifique, que d'autres amis ne m'auraient pas dit. Mais ce message-là, est-ce que je l'entends? Est-ce que je suis disposé à l'entendre? Ou est-ce que, comme dit Sylvain, je vais dans la distraction? Ou je fais tout pour ne pas y penser, ou mettre sous le tapis, ou mettre dans le fond du panier à linge. Ou est-ce que je le nettoie parce que ça réclame la détresse, l'angoisse, ça réclame une pacification. Sinon, pourquoi elle viendrait exprimer ça? Ça vient exprimer des aspects extrêmement séparés de mon esprit. Donc, assurément, ça demande... sous des formes un peu extrêmes, mais ça demande la pacification. Ça monte à ma conscience, ça s'exprime dans un mal-être apparent pour me dire, elle est où la paix maintenant? Elle est où? Voilà. Est-ce que tu peux voir aussi la détresse depuis la paix? Est-ce que tu peux choisir dans cette expérience de demeurer dans la main de Dieu, avec la détresse. Une fois, il y a une amie qui m'a dit, quand j'étais angoissé, « Avi, n'oublie pas que tu es toujours, toujours, toujours dans la main de Dieu. » Et ça m'a fait un bien ce jour-là, ça m'a fait un bien. Et je ne pourrais jamais être ailleurs. Et évidemment, J'étais à milieu de penser à la non-dualité à ce moment-là. Mais évidemment que c'est une phrase qui parle de l'unité. Je ne peux pas sortir de l'unité, même si je veux. Je ne peux pas physiquement sortir de l'unité. Je peux juste essayer de croire que c'est possible. Et c'est très différent. Parce que ce n'est pas ce que je fais, c'est comment je le fais. Et comment je le fais, c'est mon état d'esprit. Et mon état d'esprit, je suis... à 100% responsable de comment je vois les choses. Et donc, personne d'autre que moi peut changer mon état d'esprit. Je peux changer d'état d'esprit quand je veux, maintenant et à tout moment. Même si je crois le contraire, il n'y a que moi qui décide de comment je vois les choses. Voilà, et puis il y a des leçons du cours qui peuvent être des formidables supports. Hein. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Voilà, superbe. Je m'énerve, bah oui, je m'énerve, mais je pourrais voir la paix aussi. Est-ce que je choisis la paix ou est-ce que je choisis la peur? Est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur? Si je choisis la peur, ben j'ai un joker, je peux rechoisir maintenant, même après. ou à la fois d'après que ça m'est présenté. Et en plus, j'ai une hôte avec autant de jokers que je veux. Je peux toujours, toujours, toujours rechoisir. Jamais j'arriverai à un moment où je ne pourrai plus rechoisir. C'est quand même une fabuleuse nouvelle. Donc je peux expérimenter tout ce que je veux et autant de fois que je veux en me rappelant que je pourrais choisir la paix au lieu de cela maintenant. Et plus j'y pense tôt, et plus je peux choisir la paix tôt dans l'ordre chronologique des événements. Et si je le fais une heure après, c'est très bien, mais quand j'y pense de manière régulière, je peux la choisir une demi-heure après, je peux la choisir 10 minutes après, je peux la choisir 1 minute après, et puis si je m'entraîne bien, je peux la choisir au moment où ça se passe. Mais, comme dit le cours, un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Ben, je m'entraîne à choisir la paix. Il ne me dit pas bonjour dans la cour, il passe devant moi comme un fantôme. Ben, je peux rester en paix aussi, en disant bonjour et sans que le bonjour soit répondu. Et alors, est-ce que ça a le pouvoir de m'ôter ma paix? Bon, il y a des situations plus dérangeantes que ça, j'en conviens. Mais je peux aussi juger et partir dans quelque chose de difficile, simplement parce que il m'a pas dit bonjour. Et ça vient de se repasser ce soir. Ce soir, en allant ouvrir à Sylvain, voilà, il y avait mon voisin chéri qui me donne ses bénédictions chaque fois que je le vois, de droite. J'ouvre, j'attends à voir Sylvain. Non, je le vois lui. Et puis il passe tchou devant moi. Je dis bonjour et puis silence. Voilà, il passe. Et puis je prends Sylvain dans mes bras. Voilà. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et je peux le faire. Plus je le fais tôt, et moins la séparation a d'emprise sur mon esprit. Parce que je me le rappelle. Si je ne me le rappelle pas immédiatement, eh ben je peux partir dans des interprétations erronées. Il ne m'aime pas, je suis nul, il est nul, il devrait apprendre à la politesse, il ne sait pas vivre. Ou alors, qu'est-ce qui souffre ce cher frère, hein? Et ça commence à parler juste. Hein? Pour se murer dans ce silence-là, qu'est-ce que ça doit être difficile pour lui à l'intérieur? Sinon, il me dirait joyeusement bonjour si c'était pacifié. Et je peux voir l'absence de paix, et je peux compatir, et je peux recevoir sa bénédiction. Voilà, mais je m'entraîne. Ça, c'est pour moi, y a, même si ça s'appelle un cours en miracle, il n'y a pas de miracle avec un esprit non entraîné. Donc j'entraîne mon esprit. Hein. Je l'entraîne en demandant aussi de l'aide à l'esprit juste. Mais je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle de ma maison. Je me rappelle que je ne proviens que d'une seule source. Il n'y a pas deux sources, il n'y en a qu'une. Et cette source, c'est l'amour. Et cette source, c'est Dieu. Et donc, je ne peux pas ne pas être un être d'amour. C'est impossible. Mais je me le rappelle, et je me le rappelle encore, et je me le rappelle encore. Et le fait est que plus je me le rappelle, et plus je me l'enseigne à moi-même, et plus je m'en souviens, parce que je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais complètement oublié. Donc, chaque événement contrariant dans la vie est une occasion de s'exercer à se rappeler que c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est que c'est une occasion de pardonner. C'est une occasion de voir que je suis un avec celui-là aussi. Et l'autre jour, je prenais le métro, parce que je prends très, très rarement, très, de moins en moins, et j'étais dans le wagon et je me disais, tous des dieux, oui, tous des dieux, sans exception. Et s'il y avait un clochard qui pue à 5 mètres, lui aussi. Et peut-être lui d'abord. Plus la couche de jugement est grosse, et plus c'est un dieu. Et plus il m'aide à voir que je me suis égaré dans mon jugement, que je me suis égaré dans mon interprétation, de qui il est, de d'où il vient. Donc, tout le wagon, tout le métro, toutes les rames, tous des dieux qui ont choisi de faire des expériences pour revenir à l'amour en s'étant soi-disant extraits de l'amour. Comme pour avoir une perspective sur l'amour, le poisson est sorti de l'océan d'amour pour voir l'océan d'amour avec une perspective et y replonger avec un grand éclat de rire, avec une grande joie. Alors bien sûr, le poisson vit un peu la détresse hors de l'océan, vit un peu le « qu'est-ce que je fous là ?» vit un peu le « oh mais je me sens seul, je me sens plus baigné dans l'unité ». Mais c'est choisi, cette expérience-là, elle est choisie. Mais bien sûr, pour que ça ait son sens, je l'ai soigneusement occulté dans ma conscience, dans ma perception. Donc, je peux prendre un peu de recul avec ces émotions qui parfois sont fortes, parfois qui empêchent sur le moment de prendre du recul. Mais à un moment ou à un autre, je peux essayer de faire quelques pas en arrière et voir que l'océan d'amour, il est devant moi et que moi, je suis sur le plongeoir et je plonge quand je veux. Et je plonge quand je veux. Puisque c'est un shift dans l'esprit, un décalage, une révolution, c'est-à-dire au lieu de tourner le regard vers l'extérieur, tourner le regard vers l'intérieur, il n'y a que moi qui peux le faire. Et à tout moment, je peux décider de sauter à nouveau dans l'océan d'amour. Parce que je suis sur le plongeoir et il n'y a que moi qui donne l'impulsion. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de personnes sur Terre en ce moment qui se déconnectent avec des éveils comme des champignons spontanés qui arrêtent de se prendre pour le corps du jour au lendemain, et qui voit passer les événements, mais ne s'identifie plus aux perceptions, ni il y a l'expérience de la joie, au lieu de dire je suis joyeux, il y a l'expérience de la colère, il y a l'expérience, ça, les choses se passent, et il y a des déclics comme ça. Et c'est un peu comme Les Visiteurs, hein, le film, à un moment donné, le jacouille, la fripouille, Il joue avec l'interrupteur, il dit jour, nuit, jour, nuit. Voilà, et nous on peut dire jour, hein, mais quand on veut. Puisque c'est nous qui avons décidé de l'expérience de dualité, assurément la décision de retour, elle ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Il n'y a que l'unité. De qui donc ça pourrait venir à part de l'unité? Voilà. Donc, même les plus grands cycles d'essorage ont une fin. Et la fin de la machine, c'est défroissage. Défroissage, et puis ça tourne beaucoup plus paisiblement à la fin, hein, jusqu'à arriver à l'immobilité totale. J'ai parlé.